commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur les élections européennes, car nous approchons, nous sommes exactement pratiquement au jour près à 2 mois de cette échéance, les élections européennes qui ont donc lieu le 9 juin. Nous allons regarder des élections européennes qui sont importantes pour l'Europe, mais nous allons nous concentrer sur la scène française et nous allons essayer de voir où nous en sommes, parce que ça donne quand même une photographie assez précise de l'état de l'opinion, même si évidemment, il ne faut pas s'attendre à des projections des résultats de ces élections vers les présidentielles. Et nous avons aujourd'hui, pour nous aider à y voir clair, nous avons Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Frédéric Dabi, qui est directeur général opinion de l'IFOP et qui a inauguré il y a quelques jours ce que l'on appelle un rolling, c'est-à-dire un sondage d'intention de vote qui se déroule au jour le jour et donc qui se renouvelle chaque jour avec, j'imagine, un échantillon qui n'est pas le même ou qui est glissant. Enfin, pourquoi un rolling d'ailleurs? Expliquez-nous ce que c'est, Frédéric, en quelques mots avant que nous n'engagions la conversation.
Merci de me permettre de faire un petit point méthodologique. Alors, un rolling, c'est une, vous l'avez dit, hein, vous l'avez très bien dit, c'est une enquête glissante, hein, qui s'oppose aux baromètres d'attention de vote qui sont frappés par une discontinuité. L'enquête est faite toutes les semaines, tous les 15 jours et pendant une semaine, 2 semaines, on ne sait pas ce qui se passe et il peut y avoir des mouvements erratiques de l'opinion publique. Un rolling, c'est beaucoup plus doux. Il y a 500 personnes qui sont interrogées tous les jours avec une enquête glissante, c'est-à-dire le tiers des personnes interrogées à J-2 sont éliminées est éliminée au fur et à mesure. Et ça permet, quand on dit qu'un sondage d'attention de vote, un baromètre fait toutes les semaines et une succession de photos du rapport de force électorale. Là, on est plutôt sur une logique de film pour restituer au plus près, tous les jours, puisque les effets de conjoncture sont, je dirais, très fortement encadrés, limités par le fait que tous les jours, nous interrogeons 500 personnes et à J+3, on interroge 500, puis 500, puis 500. On produit un rapport de force 1500 personnes. Ça permet de restituer au plus près, tous les jours, le film d'une campagne. Alors, le film d'une campagne, il apparaît parfois que le film est extrêmement figé, c'est ce qu'on va regarder pour notre rapport de force électorale actuel sur ce scrutin du 9 juin, mais c'est une autre manière d'interroger les Français sur leur vote. Nous l'avons introduit en France au moment de la présidentielle de 2012, ça vient des États-Unis. Lors de l'élection de Bill Clinton, il y avait eu 2 ou 3 rollings dans la campagne américaine.
Donc ça nous rapproche davantage de l'exactitude, enfin en tout cas ça...
On essaye, on est proche.
Jean-Claude.
C'est très bien parce qu'en même temps, non seulement vous donnez l'intention de vote, mais vous donnez ce qui a impressionné l'opinion. C'est-à-dire qu'on voit quels sont les facteurs qui peuvent expliquer les variations.
Oui. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le rapport des forces, et traditionnellement, Frédéric Dabi, les élections européennes sont considérées comme non impactantes sur la suite des scrutins, c'est-à-dire essentiellement sur l'élection présidentielle, puisque on a vu dernières élections européennes arrivait en tête la liste de Marine Le Pen, enfin de Jordan Bardella déjà, et Marine Le Pen n'a pas gagné l'élection présidentielle. Donc il y a cette première donnée, est-ce toujours vrai? Deuxièmement, les élections européennes en règle générale ne nous permettent pas de parler d'Europe. Et nous, on est surtout dans des affrontements nationaux. Est-ce que ce sera encore vrai? Et troisièmement, c'est un scrutin réputé pour être très frappé par l'abstention. Alors, tous les autres scrutins, aujourd'hui, malheureusement, sont frappés par l'abstention, mais est-ce que c'est toujours vrai sur ces 3 petits points, avant d'engager sur le rapport des forces, Frédéric Dabi?
Ce sont des points très importants, et j'ai envie de dire, avec une grande prudence, que les invariants traditionnels d'un scrutin européen, que vous venez, Jean-Marie, de rappeler, pourraient être battus en brèche. Un scrutin où l'on vote pas, déjà, en 2019, on avait plus voté que prévu, et pour la première fois, la montée successive de l'abstention observée à chaque scrutin depuis 1984 avait été battue en brèche. Là, n'oublions pas, c'est le seul scrutin national du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, sauf bien sûr dissolution et législative anticipée que personne ne peut anticiper. Donc peut-être que les Français, après en plus une campagne présidentielle tronquée, vont vouloir voter, puisqu'ils ne l'ont pas fait depuis maintenant plus de 2 ans. Deuxièmement, vous l'avez dit, est-ce que c'est un scrutin autonome ou un scrutin autarcique? On voyait par le passé, vous l'avez rappelé, qu'il n'avait aucun impact sur les scrutins futurs. Qui se souvient d'un Philippe de Villiers, qui obtient 12 ou 13% en 1994, il est salué comme le futur héros de la droite, avec la double orthographe. 9 mois après, il fait moins de 4% à l'élection présidentielle. Les écologistes, qui font des très bons scores en 2009 et 2019, se disent « Nous avons maintenant la dominante à gauche, on voit ce qui se passe à l'élection présidentielle. » Donc, traditionnellement, un scrutin qui n'a pas d'impact. Mais justement, parce qu'il n'y a pas d'autre scrutin national, parce que il n'y aura pas, pour le Rassemblement national, l'effet très limitant, voire handicapant, des régionales de 2015, des régionales de 2021, qui avaient, avec zéro région gagnée pour le FNRN, malgré des très bons scores, leur avaient coupé, si je puis dire, la dynamique. Il n'y aura pas ce phénomène-là. Donc, sans doute, les enseignements au soir du 9 juin, qui arrivent en tête? Est-ce que le RN est très nettement devant? Est-ce qu'il écrase la concurrence? Quel l'élément de décantation à gauche qui arrive en tête par les de gauche, tout ça pourra peut-être avoir des impacts extrêmement forts sur le cycle électoral et sans scrutin national, je le répète, hors hypothèse de dissolution que personne autour de notre table ne peut prévoir, l'impact sera peut-être beaucoup plus fort que par le passé. Dernier point, oui, un scrutin où on ne parle pas d'Europe, un scrutin défouloir. Alors, en ce moment, les enjeux nationaux prennent le pas sur les enjeux européens. Mais on est quand même dans un contexte où l'Europe a nettement moins mauvaise presse que par le passé. En 2019, lorsque nous testions à l'IFOP une hypothèse de Frexit, on avait 40 à 45% des Français qui disaient oui, favorable à un Frexit. En entre 15 et 20%, les Français ont vu l'Europe agir pendant le Covid, lors de la guerre en Ukraine. Donc, l'enjeu européen est un enjeu plus fort que par le passé, même si dans ce momentum particulier, avec la situation intérieure très compliquée, de nouveau, on le voit dans notre euro-rolling. Alors, je fais deux petits points sur le rolling. Il permet des évolutions beaucoup plus douces que les baromètres qui, parfois, vous avez des plus 3, des moins 4. Quand vous le ramenez au corps électoral, ça paraît extrêmement farfelu. Et puis, interroger 500 personnes par jour, 1000 par jour les 15 derniers jours, permettra d'avoir un volume d'interviews de 35 000, 40 000 personnes pour faire des analyses très fines sur qu'est-ce qui s'est passé sur les comportements électoraux par grande catégorie.
Jean-Claude.
Oui, donc ce qui me frappe dans le c'est l'intensité du jugement sur le président de la République, parce que si on prend globalement vos estimations, la gauche est à 34%. Ce qui montre d'ailleurs que la pluralité des listes favorise le vote, le vote à gauche d'une certaine façon. Et d'autre part, l'extrême droite est à 37,5. Si l'on ajoute à l'extrême droite la droite classique, les Républicains, on arrive à 46%. 46 plus 34, ça fait 80. Donc ça laisse à la majorité présidentielle 20%. Et là, c'est vraiment faible d'une certaine façon. Ça traduit l'intensité. Emmanuel Macron conserve un degré de popularité plus grand que n'ont eu Sarkozy ou Hollande, mais une intensité d'hostilité à son égard beaucoup plus grande. Et donc, le côté peau de chagrin apparaît, je trouve, assez clairement si le score se maintient. Et la deuxième constatation que je fais, qui tient à ce que vient de dire notre ami Frédéric, c'est que si l'on additionne les adversaires de l'Europe, ils sont historiquement majoritaires, mais leur degré d'adversité à l'égard de l'Europe a diminué. D'une certaine façon, l'extrême droite ne recommande pas la rupture des traités, et l'extrême gauche non plus. Et donc, on peut, si l'on est très très européen, ce qui est mon cas, on peut s'inquiéter de la montée du vote anti-européen et en même temps se satisfaire de la moindre intensité du vote anti-européen.
Frédéric Dabi.
Oui, je partage complètement ce que vient de dire Jean-Claude Casanova. C'est vrai que alors, les élections européennes dans une année qui se termine par 4 ont toujours été des élections où le pouvoir a été sanctionné. Rien de scientifique à ce que je viens de dire, c'est une simple constatation. 84, la liste socialiste de Jospin est surclassée par la liste de Simone Veil. Entre parenthèses, exceptée de la liste UDF-RPR de Simone Veil, jamais une force n'a obtenu ce que pour l'instant promettent les sondages à la liste RN entre 32-33%. Le vote sanction, on l'a vu en 94, en 2004, ça peut aller très vite parce que On est sur un vote qui reste défouloir sur cette élection européenne si différente, une sorte de singleton dans le cycle électoral français, que ça peut être terrible. Et puis c'est vrai que les ferments qui avaient permis à la liste Macron, à la liste En Marche en 2019 ou Renaissance en 2024 de limiter les dégâts ne sont pas là. En 2019, il y avait un émetteur présidentiel qui était encore fort, qui sortait du grand débat, qui incarnait l'ordre et la sécurité après la chienlit, pardon de ce terme, au moment du mouvement des Gilets jaunes, qui a eu lieu quelques mois avant les élections européennes. Tel n'est pas le cas. Et on voit à quel point, hein, c'était notre rolling info fiducial jeudi, que les enjeux nationaux prédominent dans le vote, que l'envie de sanctionner la liste Renaissance et par là le président Macron est extrêmement fort. 4 électeurs sur 10 et une majorité écrasante au Rassemblement National, qui vient le vote de colère pour montrer son mécontentement à l'égard du président, et à un moindre degré du côté de l'extrême-gauche. Et cette expression de peau de chagrin me plaît, parce que on voit très bien que ce qui était un cercle vertueux, c'est-à-dire je suis favorable en tant que citoyen à l'Union européenne, je veux que l'Europe continue à se développer, je l'ai vu agir positivement, c'est comme ça que les Français le disent, certains Français, pendant le Covid et lors de la guerre en Ukraine, pour soutenir celle-ci face à la Russie, et donc je vais voter pour la liste la plus européenne, qui est la liste Renaissance. D'une part, il y a la concurrence de la liste Glucksmann, on va en parler, qui devient une liste réceptacle à un triple titre, électeur de Mélenchon de 2022, électeur Jadot de 2019, et électeur Macron de 2022, et d'autre part, la prévalence, la prédominance des enjeux nationaux met ce cercle vertueux de vote européen qui bénéficie à la liste de la majorité, pour l'instant, à distance, voire très isolé.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Frédéric Dabi, le directeur général opinion de l'IFOP, et nous évoquons la perspective des élections européennes. Et donc là, ce que l'on voit à travers votre rolling, donc votre sondage qui est fait chaque jour, c'est qu'en effet une position dominante très forte de la liste de Jordan Bardella et une position de plus en plus faible, semble-t-il, de la liste de la majorité. Alors il faut dire que la liste de la majorité est conduite par une personnalité qui est certainement très estimable, mais qui était inconnue jusqu'à présent des Français, qui a été désigné très tardivement. Et on avait l'impression que le schéma retenu était un schéma comme celui de 2019, où le président de la République s'investirait au fond lui-même et ferait en sorte que le résultat se redresse. Or, comme vous évoquiez, Frédéric Dabi, le fait qu'aujourd'hui, le vote RN Bardella est un vote de protestation, plus fortement peut-être qu'à d'autres moments, et donc un vote sanction se prépare. Donc, d'une part, et puis d'autre part, la présence d'une liste à gauche qui peut être performante, Frédéric Dabi.
Oui, je partage votre point de vue. Alors, c'est vrai que on disait par le passé encore un invariant d'une élection européenne qui peut être battu en brèche. On parlait de l'abstention, on parlait d'une élection qui n'avait pas d'impact sur le cycle électoral. On parlait également, on doit parler d'une élection où par le passé, on disait la tête de liste ne compte peu pour une européenne. Ce qui compte, c'est l'étiquette, la marque partisane. Je votais pour la marque PC, la marque RPR-UMP, la marque PS. Là, on est dans un cas original où d'abord il y a des incarnations fortes, Jordan Bardella, et surtout, il y a, et là c'est de nouveau, hein, je pense, le contrôle de Jean-Claude Casanova, énormément de têtes de liste sortantes, qui étaient déjà là en 2019. Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Jordan Bardella, Marie Toussaint, qui fait que la question du bilan, qui était complètement absente des motivations de vote par rapport au programme, par rapport à l'envie de sanctionner le gouvernement, par rapport à son point de vue sur l'Europe, enfin, peut compter, bien sûr, ça sera pas majeur, mais plus que par le passé. Et donc, dans ce cadre-là, où l'incarnation compte plus que par le passé, voilà un handicap pour la liste Renaissance qui ne se posait pas en 2019. Hein, personne ne connaissait Nathalie Loiseau. Elle a mené une campagne assez erratique avec ce qui a été appelé des bourdes à tort ou à raison. Ça n'a rien changé au fait que beaucoup d'électeurs ont voté pour l'étiquette En Marche, pour l'étiquette Macron. Notamment l'impulsion présidentielle dans les 15 derniers jours, avec d'ailleurs une campagne d'affichage avec la tête de liste. Ce n'est pas le cas cette fois-ci, et voilà un problème de plus, si je puis dire, pour Valérie Hayé, avec en plus cette idée qu'elle n'est plus la seule à incarner dans son couloir la construction européenne et l'adhésion à l'Europe.
Et là naît s'affirme une figure qui était en effet déjà présente à la précédente élection, qui est Raphaël Glucksmann, et qui tout d'un coup prend une crédibilité que l'on ne soupçonnait pas.
Oui, c'est vrai, il était complètement inconnu en 2019. 2019, c'est quelques mois après la bérésina de la gauche, du PS, en 2017. Là, il est plus connu. Alors, on peut faire même le même parallèle pour François-Xavier Bellamy, qui a des scores dans notre rolling, il faut fiducial, plutôt intéressant, 8,5. Alors, il revient à son étiage de 2019, mais... La crainte qu'il avait, ce qu'il avait connu de manière tragique en 2019, c'est-à-dire que pour aider la liste de la majorité des électeurs de droite, était allé soutenir la liste Macron-Loiseau, a peu de chances, a moins de chances, soyons prudents, de se produire. Pour Raphaël Glucksmann, c'est l'homothétie à gauche, avec un positionnement social démocrate, un positionnement pro-européen qui lui permet de se distinguer de l'Europe critique de LFI, de Manon Aubry, de Jean-Luc Mélenchon, et puis comme je le disais, la chance, d'avoir trois sources électorales dans notre rolling quotidien. La liste Glucksmann arrive à capter un quart de l'électorat Mélenchon 2022, ces électeurs de gauche qui sont allés voter utile pour Jean-Luc Mélenchon pour éviter, et ça a été un échec, que Marine Le Pen arrive au second tour. Des électeurs écologistes, Jadot, qui aimaient l'incarnation de Yannick Jadot et qui maintenant sont assez dépourvus face à une Marie Toussaint très absente, très, si je puis dire, timorée dans un contexte où la marque écologiste s'est diluée dans la NUPES. Il en prend environ 25%. Et puis, pour l'instant, c'est encore faible, mais 10% de l'électorat Emmanuel Macron de 2022 choisit la liste Glucksmann. Qu'est-ce qui se passerait si ce chiffre montait? Là, on aurait vraiment cette image de peau de chagrin qui pourrait être maximisé pour Valérie Allier.
Est-ce qu'on peut parler d'un vote utile pour la liste Glucksmann, dans certains secteurs de la gauche au moins?
Parler de vote utile à une élection européenne à un tour paraît un peu, peut paraître inapproprié, mais effectivement, ça peut être un vote utile, un vote témoin pour montrer son attachement à l'Europe, sanctionner, doucement, mais sanctionner mezzo voce ce qui se passe dans les affaires intérieures, et un Emmanuel Macron extrêmement discrédité, notamment dans l'électorat de gauche, avec la virulence dont parlait Jean-Claude Casanova, et sans pour autant choisir des votes de gauche radicaux.
Si on raisonne, comme je le fais souvent pour les élections européennes, en distinguant le parti européen de ce qui n'est pas le parti européen aujourd'hui est représenté par Glucksmann, Ayer et d'une certaine façon Bellamy, qui a fait au Parlement européen pendant 5 ans, a fait des progrès, a effacé en lui ce qui était un peu nationaliste. Et de ce fait, tout va se passer à l'intérieur du parti européen. Et je me pose la question de savoir s'il est de l'intérêt de Macron et du Premier ministre de s'engager davantage. Parce que leur handicap vient du fait que Glucksmann et Bellamy ont plus, l'un et l'autre, plus de talent que leur propre leader. Et donc, ils ne peuvent compenser l'absence de talent ou l'insuffisant talent de leur leader que par une implication plus grande. Mais une implication plus grande présente évidemment un risque, mais je crois quand même qu'il est de l'intérêt politique du président de la République de s'engager carrément dans cette élection.
Frédéric Dabi.
Oui, il y aura en plus, je partage ce qui a été dit par Jean-Claude, il y aura en plus des moments importants. Le 9 mai, journée de l'Europe, message envoyé à la Russie qui fêtera, commémorera sa grande victoire face au nazisme. 6 juin, 80e anniversaire du débarquement de Normandie. C'est des occasions pour le président Macron de montrer son attachement à l'Europe, rappeler le bilan de ses années au pouvoir. Mais je le répète, parfois, ce que tu es, je cite mon maître Jean-Luc Parodi, ce que tu es est si fort qu'on n'entend plus ce que tu dis. Je le répète, l'émetteur Macron est un émetteur abîmé auprès des Français, avec une virulence dans les propos.
Quelles sont les racines de ce que vous dites abîmé? Parce que c'est d'ailleurs un épais mystère, parce que quand même il y a eu la crise du Covid. La crise du Covid a été accompagnée par le quoi qu'il en coûte. Mais le quoi qu'il en coûte a été salvateur à la fois pour les individus, pour les salariés, pour les entreprises. Donc il aurait dû au contraire se produire l'inverse, c'est-à-dire une forme au moins, un minimum de satisfecit accordé au président de la République. Or, c'est pas ce qui se passe. Et est-ce qu'il faut incriminer toute la batterie de mesures qui ont été annoncées, c'est-à-dire le problème de la dette qui a surgi et qui probablement traumatise les gens parce qu'on se dit, oh là là, ça va être la chasse aux dépenses publiques, donc ça va être l'austérité, donc on voit bien le film qui peut être déroulé, d'autant que l'opposition appuie beaucoup là-dessus. Est-ce que c'est les mesures sur le chômage? Est-ce que c'est les mesures, je veux dire, il y a toute une est-ce que la dernière en date, c'est évidemment la proposition rapidement oubliée d'ailleurs du ministre de la fonction publique disant il faut lever le tabou du licenciement dans la fonction publique. On voit bien que tout ça n'est pas de nature à créer de la popularité.
Tout à fait. Alors, le satisfecit, on l'a vu, Jean-Marie. On l'a vu entre 2020 et 2022, où le président était dans un glacis de popularité de 40%, parce que les Français lui savaient gré de la gestion de la crise Covid. Ce satisfecit, on l'a vu à l'élection présidentielle, qu'il a quand même nettement remporté avec un socle électoral de premier tour supérieur à son socle de 2017. Hein. Seul François Mitterrand avait fait mieux entre 81 et 88, mais depuis, il y a eu ce quinquennat mort-né, mal-né, ces élections législatives ratées, cette réforme des retraites qui a énormément tendu les choses. On a un peu oublié, ça a été de très nombreux débats entre nous trois en 2000.
Ça a mobilisé l'opinion.
Ça a mobilisé la gauche, ça a enquisté le quinquennat dans une forme d'injustice qui est réactivée par ces mesures contre les chômeurs, contre l'emploi des seniors. Alors, il y a quelques rayons de soleil, si je puis dire. Le satisfecit des Français vis-à-vis de Gabriel Attal qui bénéficie d'un crédit de confiance fort. Mais la dette, alors que les Français se rappellent du quoi qu'il en coûte, si je puis dire, avec la dette, le charme est rompu avec l'idée que la France est très mal située par rapport à ses pays, ses autres confrères européens, met à mal la logique de distinction qui est, oui, Macron s'est géré. Je ne parlerai pas de terme du Mozart de la finance, mais nous sommes bien conduits dans les affaires du pays. Donc cette question de la dette a enraciné aussi un sentiment de tromperie. On nous a caché des choses. Et puis il y a un mot qu'on n'a pas fait publier, l'insécurité. L'insécurité autour de l'école. On est dans un contexte où l'agression de Montpellier, le terrible meurtre de Viry, Châtillon, avec il y a quelques semaines, le proviseur d'un lycée du 20e arrondissement de Paris qui doit démissionner. Tout ça, ça inquiète l'opinion publique. Et dans ce cadre-là, le responsable, c'est le chef de l'État. Et ce qui aurait pu être ce cercle vertueux, d'une élection européenne où on va soutenir la liste présidentielle qui est la seule liste favorable à l'Europe. Il y a la concurrence Glucksmann et il y a ces nuages intérieurs qui, pour l'instant, bouchent l'horizon de la liste de Valérie Hayet.
Oui, je suis de votre avis. Je résumerai mon point de vue en disant que il y a trop de réformes et chaque réforme inquiète une fraction de l'opinion. Il n'y a pas assez d'autorité et le problème de la sécurité est décisif à ce point de vue-là. Et il y a trop d'amateurisme dans le personnel politique au pouvoir. Trop de ministres qui ne savent pas tenir leur langue ou qui disent n'importe quoi, annoncer que la possibilité de licenciement dans la fonction publique est un chef-d'œuvre d'inconséquence.
Voilà, on va rester sur cette synthèse de Jean-Claude Casanova en remerciant. Il y a mille autres sujets que j'aurais voulu aborder, mais vous reviendrez évidemment, avec Frédéric Dabi, au fur et à mesure du déroulement de cette campagne pour les élections européennes. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.